Grainville PM. La voix est libre.
J'admets mes erreurs. C'est moi qui ai fait l'erreur. Alors, à partir du moment où j'admets l'erreur, effectivement, j'aurais dû mieux faire les choses. Pour la prochaine fois, je vais m'améliorer. Je m'excuse auprès des Québécois.
Même c'est vous pour qui avez demandé à M. Jolin Barrette de venir.
On a décidé ça ensemble.
Voici Luc Lavoie.
Alors, vous venez d'entendre François Legault, juste avant Simon Jolin Barrette. Il va évidemment être question de ses excuses du ministre dans les prochaines minutes avec Luc Lavoie. Bonjour, Luc Lavoie.
Oui, bonjour, Bernard.
Je rappelle qu'on est en Facebook Live pour ce premier segment. Et évidemment, salutations aux gens de la Mauricie et du Centre du Québec qui nous accompagnent à partir de maintenant. D'abord, allons-y sur la gestion de ce message-là. Il se présente en point de presse. On se demande qu'est-ce qu'il va dire. Est-ce qu'il est allé assez loin? Est-ce qu'il a bien fait ça?
Oui, il a très bien fait ça, mais quand tu dis la gestion, on parle d'aujourd'hui.
Oui, oui.
Aujourd'hui, oui. C'est très bien conduit. Il ne pouvait pas faire mieux que ça. Quand même, il ne peut quand même pas se déshabiller et dire « Regardez-moi, je suis nu. »
Ou c'est s'auto-flagellé, l'arrivée avec un fouet.
Il y a quand même des limites. Ouais, là, ouais, ben, ouais. Il a dit « c'est de ma faute. » Puis j'aurais dû prendre mon temps, puis j'aurais dû travailler davantage, puis je retourne tour dans la table
c'est
de
mon
travail.
Erreur, puis j'assume l'entière responsabilité, puis ça se reproduira pas.
Ça n'a pas dû être facile pour lui, là, soyons honnêtes, ça n'a pas dû être facile pour lui, c'était un méchant coup à l'orgueil, ça, de faire ça.
Ah, il y avait la voix chevrotante, là, tu sais, la voix tremblante, là. Moi, je ne l'ai jamais vu comme ça, Jolin Barrette.
Moi non plus, je l'ai trouvé assez ébranlé.
Oui.
Et je conçois très bien qu'il doit l'être, qu'est-ce que tu
sûr.
Et je conçois très bien aussi qu'il n'a certainement pas fait exprès. Je veux dire, il s'est pas levé un matin en disant je m'en vais virer à la place à l'envers sur l'immigration.
Oui,
il pensait qu'il était sur la bonne voie, mais de toute évidence, il y avait quelque chose dans son approche, il y a peut-être quelque chose dans son style, il y a peut-être quelque chose dans sa façon d'être.
Il dit qu'il est allé trop vite.
Il est allé trop vite.
C'est clair qu'il est allé trop vite.
C'est clair qu'il est allé trop vite. Il aurait pu, parler à ses collègues, ça va de soi.
Oui.
Avoir un meilleur contact avec le cabinet du premier ministre. Je n'étais pas là, mais j'entends dire que ce n'était pas idéal, ça.
Non.
Il aurait pu avoir des contacts à tout le moins avec les collèges puis les universités qui étaient directement touchés de front. Dans leur réalité de tous les jours, il inclut les finances.
Oui.
Donc, il y a quelque chose dans son approche de la politique qu'il va devoir corriger s'il veut survivre.
Oui, puis je rappelle, il y a 32 ans.
Il y a 32 ans.
Et on lui a donné beaucoup de responsabilités, Luc. C'est ça, je voulais t'entendre là-dessus. Tu penses qu'on y en a trop donné, là?
Ben, beaucoup trop, tu sais. Écoute, là, je veux pas, évidemment, toi et moi, on s'embarquera pas là-dessus, mais la loi 21, c'est pas une petite loi facile passe de même en faisant un clin d'œil. Là. Écoute bien, c'est gros. Là. Juste ça, il aurait dû y donner ça, là. Puis ce qu'il appelle l'intégration, puis ça aurait déjà été ça. Là.
Ils ont donné laïcité, immigration, leader parlementaire, ils ont rajouté la francisation.
La francisation, bien, la langue française comme telle.
Ouais.
C'est trop. Il y a 32 ans. Je ne veux pas dire des grosses quétaineries, mais il est un jeune père de famille aussi. Je me souviens d'avoir vu avec sa très jolie jeune fille qui devait avoir 2-3 ans dans ses bras. Alors, il doit essayer de trouver un peu de temps pour sa famille aussi.
Il doit être...
Il vit sous une pression affreuse.
Il ne le montre pas. Il n'a pas l'air d'un gars fatigué, mais mentalement... Aujourd'hui, oui. Mais avant aujourd'hui, je trouvais qu'il y avait... Non, aujourd'hui, il a perdu de sa superbe, là.
Ah ben oui, mais il fallait qu'il en perde aussi. Il ne pouvait pas arriver en disant « Ah, ah,
non, il fallait qu'il ait l'air pénitent.
Oui, il l'avait. Le ferme propos, comme on disait autrefois dans la religion catholique.
Ouais.
Il avait le ferme propos.
Je pense qu'il avait l'air... il avait l'air sincère.
Ne nous cachons pas que l'exercice qu'il a fait là... Si le patron, M. Legault, avait décidé d'aller un pas plus loin, c'était la démission, là. Il est comme à la limite de la démission, là. Là, si j'étais le gouvernement, j'y ferais très attention.
Oui.
Je le mettrais dans des dossiers moins explosifs, sans que ça ait l'air d'une démotion.
Moi, je me demanderais s'il y a le bon chef de cabinet. Honnêtement, Luc, là, le directeur de cabinet est très important là, pour un ministre, là.
Je le connais pas. Le connais-tu?
Je le connais pas, mais ce que je te dis, c'est que...
Il y a eu
quand même beaucoup d'erreurs ces dernières semaines. Là, parce que je te rappelle, il y a eu aussi, quand il a ouvert sur la possibilité d'interdire le bonjour hi. Là.
Oui.
Moi, je pense que dans l'entourage de Jolin Barrette, présentement, là, il y a besoin d'avoir 2 ou 3 personnes plus fortes que celles qui sont là présentement puis qui sont capables de l'asseoir puis de dire à un moment donné, Simon, veux-tu on va s'asseoir puis on va jaser? OK? Qui sont capables de lui tenir tête, qui sont capables, dans certains moments, de dire, Simon, si tu t'en vas là, tu te plantes. OK? On peut-tu arrêter puis jaser un peu? Ouais. Moi, je pense qu'il n'y a pas personne actuellement dans son entourage qui est assez fort, Luc.
Mais tu sais que ça me rappelle des vieux souvenirs. Jean Charest, quand M. Mulroney l'a fait entrer au cabinet, il a dû le faire entrer au cabinet vers 88. Il a été élu en 84. Et en 90, et tout le monde le voyait comme une vedette montante. Là, il est bon communicateur, tout ce que tu veux. Puis il était responsable des sports. Oui. Puis dans un procès impliquant du dopage sportif, il avait pris le téléphone puis il avait appelé le juge.
C'est ça.
Et j'étais là quand M. Mulroney l'a appelé. Il a dit, Jean. Puis Jean n'avait pas pris de chance. « Hey, M. Mulroney, M. Bidora, blablabla. » Il a dit, « Non, arrête, Jean, arrête. » là. On n'appelle pas des juges quand on est ministre. OK? Alors, tu vas me remettre ta démission, puis...
T'étais là, t'as entendu Mulroney dire ça?
Oui. C'était... Puis je me souviens...
Est-ce que Charest est au téléphone, là, ou il est...
Il est au téléphone, mais moi, quelques semaines après, deux semaines après, comme je t'ai déjà expliqué, Charest et moi vivions un... C'était un hasard. On vivait tous les deux à Ottawa, puis on était un à côté de l'autre sur le même palier dans un édifice-appartement. Et donc, je le voyais, ma fille puis sa fille étaient dans la même classe, il y avait du covoiturage parfois... Et je l'avais vu deux week-ends après, je lui ai dit, « Hey, Jean! » Puis je voulais faire mon drôle. Je pensais que j'étais drôle. « Jean, le premier ministre m'a parlé de toi. »« Ah, ouais! Qu'est-ce qu'il a dit? » Je lui ai dit, « Ben, il a dit, coudon, Jean va être bien mieux de même. Il devait être écœuré d'être ministre et que ses jeunes enfants, ça n'a pas de bon sens. »
Oh boy! il a pas apprécié.
Non,
hein?
Non, il a fallu que j'y dise, c'était une blague.
Ouais.
Alors, revenons à M. Jolin Barrette. Le gars, il s'est engagé en politique. Je me souviens que lors du dernier mandat, là, celui du gouvernement Couillard, on disait beaucoup de bien de lui. Tu t'en rappelles, non?
Oui.
À toutes les fois qu'on parlait des meilleurs parlementaires de la CAQ, ils montaient, c'était le jeune, le jeune.
Luc, qu'on soit pour ou contre la loi 21, là, ou la loi même sur l'immigration, là, de façon générale, dans l'opinion publique, je te parle dans l'opinion publique, au terme de la dernière session, la session qui a mené donc aux vacances de l'été, ce qu'on entendait sur Jolin Barrette, c'était très positif. De façon générale, OK? Je te demande...
Mais on commençait déjà à entendre des gens trouver qu'il est un peu arrogant.
Non, ça c'est vrai. Et un peu robot.
Ouais.
Hein, ça manquait un peu d'émotion dans ses réponses. Un peu cassette, en fait. Bon. Mais là, ce qui me frappe, moi, dans la dernière semaine, tu sais, quand on dit que la politique est un sport extrême, là, puis que tu peux vraiment dégringoler rapidement.
C'est
là,
incroyable ce qu'il dit.
C'est incroyable, là. C'était là.
C'est une débarque incroyable.
C'était un des ministres forts de ce gouvernement-là. Ouais. Il y en a qui l'appelaient le tireur d'élite de François Legault.
Il y en a qui le voyaient comme son successeur
absolument,
assuré.
Absolument.
Tout.
En l'espace de quelques jours, là, écoute, il a pris une méchante débarque.
Ça va lui rester accroché comme un boulet au pied. Et moi, si j'étais le premier ministre, je songerais pas là, mais au plus tard à l'été, là, au printemps.
Un remaniement,
puis à y donner des dossiers qui sont pas dans ça.
Oui.
Des dossiers économiques.
Ah, mais il en voudra plus de ça, là.
J'espère bien.
Mais il va dire au premier ministre, « Hey, j'ai donné, là, tu m'as donné la laïcité, tu m'as donné l'immigration. Là, j'ai joué là-dedans, là. C'est des dossiers pas faciles. Maudit que je suis bien placé pour en parler. » Fait que là, tu vas m'envoyer ailleurs.
Il pourrait le garder, l'idée parlementaire.
Oui. Quoique, il ne fait pas l'unanimité là-dessus non plus.
Ouais,
parce
que
peut-être que
il si
est
on
dur
le déleste,
avec le matériel humain, Luc.
Mais si on le déleste un peu de
peut-être. Peut-être.
Mais, et aussi lui trouver quelque chose comme un portefeuille social ou économique,
ça
où il y a des beaux projets à livrer.
La famille, ça pourrait être. Bon, l'éducation peut-être qu'il apprendrait, on verra. En tout cas.
Mais là où il y a des beaux projets à venir.
Oui.
Et
pour se refaire.
Ben, pour que le monde comprennent que c'est pas juste le gars qui bouscule, là, qui est capable de travailler comme un bon garçon.
OK.
Alors, lui, il a une longue pente à remonter, puis du fond du cœur, je lui souhaite de réussir. C'est dur, la politique.
C'est très dur, la politique. N'oublions pas, il a 32 ans.
Oui.
OK.
On a déjà eu 32, toi et moi.
Oui. Puis, je veux dire, moi, à 32 ans, j'étais journaliste, là. Et j'avais pas les responsabilités ministérielles que Simon Jolin Barrette a eues. Y a-t-il un extrait? Il n'y a pas d'extrait. OK. Très bien. Faut parler de Michael Sabia.
Oui.
Parce que là, ça, c'est l'autre grosse nouvelle des deux dernières heures. Mm-hmm. Là, Michael Sabia, donc, qui va quitter plus tôt que prévu la direction de la Caisse de dépôt. Réaction,
il a fait une excellente job, ce gars-là, en 9 ans, quand il est arrivé en poste, c'était une catastrophe, la caisse, tu t'en souviens très bien.
Oui.
Tu t'étais député à l'époque.
Les papiers commerciaux, on avait perdu 40 milliards en valeur marchande, là, en valeur au marché. Mm-hmm. On a perdu 40 milliards, c'était 25% du portefeuille de la caisse.
C'était incroyable. Et c'était le point culminant d'un passage à vide, pour dire le moins, pour employer des mots gentils. Quand Jean-Claude Screr a été remplacé par Henri-Paul Rousseau, premier geste posé par Henri-Paul Rousseau, il avait mis à peu près 40 personnes dehors, quasiment toute la haute direction de la Caisse. Et puis là, il était en train de reprendre ça, puis il allait rebâtir ça. Alors que la Caisse, sous Jean-Claude Screr, n'a pas fait si mal que ça. Il est arrivé là, il a bousculé, puis ça a fini, comme tu viens de le dire, dans un mur, mais un mur incroyable. Et est arrivé Michael Sabia, puis ça a été contesté par certains.
Ah, par moi,
parce
notamment.
Anglophone.
Ah non, c'était bon, c'était pas ça.
Ah non, ah bon?
Non, moi, ça avait rien à voir, anglophone.
Non, mais Bernard Landry, il l'avait fait, lui.
Ah, peut-être, mais moi, c'était pas ça, anglophone.
Pierre-Carl Péladeau l'avait fait.
Ah, ouais, peut-être. Moi, j'avais le sentiment, il arrivait de Bell Canada, et moi, j'avais peur que qu'il arrive avec une commande politique. Tu sais? Ben, tu sais, il était nommé par Jean Charest. Moi, mon inquiétude, c'était qu'il ne soit pas suffisamment sensible au Québec Inc. Tu sais, que mandat de développement économique, le mandat de préserver nos centres de décision, j'avais l'inquiétude et je me suis trompé. Je l'ai dit tout à l'heure à Patrick Lagacé, je me suis trompé, mais alors là, pas à peu près. Des fois,
il a fait une superbe job.
Écoute, je vous donne des chiffres, là.
9,9% de rendement pendant tout son règne.
9,9 en moyenne sur 10 ans. Quand il est arrivé, la Caisse, c'était 120 milliards d'actifs. Il la quitte. 326 milliards.
Ouais.
Notre bas de laine, Luc, ça a triplé.
Et tu sais, moi, je connais Michael Sabia depuis 1987-88, quand il était au conseil privé ou quand il était sous-ministre adjoint au revenu. C'est lui.
C'est un gars qui arrivait d'Ottawa, là, aussi, faut le rappeler, là, avant Bell Canada.
Il est arrivé à Montréal avec Paul Tellier. Paul Tellier, c'était l'ancien greffier du conseil privé.
Voilà, voilà.
Et il a été nommé PDG du Canadien national au moment où on faisait
la privatisation
et qu'il fallait mettre ça en place. Paul avait amené avec lui Michael Sabia. Michael Sabia, c'est quand le gouvernement avait décidé d'aller de l'avant avec la TPS. Ah, ça avait été tout un débat, cette affaire-là. Pour que ça marche, et dans ce sens-là, M. Mulroney avait raison, il fallait qu'entre le moment où la loi était adoptée puis le moment où ça entrait en vigueur, il n'y ait pas de cafouillage. Ça avait assez brassé. Il fallait que ça rentre puis que ça marche.
Oui.
C'est pas si facile que ça en a l'air. Alors, je me souviens, M. Mulroney avait demandé à Paul Tellier, « Écoute, as-tu quelqu'un dans la machine gouvernementale qui est capable de me faire marcher ça? » Paul avait dit, « J'ai ton homme. » Il était arrivé avec Michael Sabia. Et là, nous autres, en fait, au cabinet du premier ministre, on trouvait ça drôle parce qu'il paraît que Michael Sabia, c'est pas exactement reposant quand tu veux atteindre un objectif. Littéralement, il était pas au fouet, là, mais c'était pas loin. Je pense qu'il avait pu, il l'aurait pris.
Mais ça a marché.
Il a mis ça en place, ça a marché. Impeccable. Bon, il a été au Canadien national, ça a marché impeccable. Il était le chef de la direction financière, puis ils ont réussi la privatisation, tout ça. Quand il est allé à Bell, ça a été plus compliqué, puis on ne peut pas vraiment complètement le blâmer. Et à la Caisse, tu le vois arriver là, moi-même, j'avais des doutes pour cette raison-là, parce que même chez Bell, puis même au Canadien national, on parlait tantôt de M. Jolin Barrette, qui n'est pas très doux avec les humains. Michael, il est incroyable quand il s'y met, là. Quand il veut quelque chose, là, puis qu'il n'est pas satisfait. Là. Oh boy, la vie peut se transformer en enfer à grandeur d'entreprise.
L'expression en anglais, c'est « slave driver ».
Moi, c'était un « slave driver ». Ben, des égards,
c'est
en effet.
C'est quelqu'un de très exigeant, dur avec le matériel humain.
Mais très déterminé, là. C'est un gars, là, Michael. Là. Il regarde un objectif, puis quand il dit « je vais y parvenir », t'es mieux de te lever de bonne heure pour l'empêcher.
Je me demande, Luc, il quitte plutôt que prévu. D'abord, d'ailleurs, je veux...
Je sais pas son âge, j'ai pas vu là, son âge. Michael doit avoir 68, 69.
On va trouver ça, Marie, s'il te plaît. Il s'en va, je vous le dis, là, il s'en va diriger la Monk School of Global Affairs and Public Policy à l'Université de Toronto.
C'est très prestigieux, en passant.
Absolument. 66 ans, Luc, me glisse-t-on à l'oreille. Oui, la Monk School, c'est là, c'est notamment cet institut qui organise un débat là, aux élections. Là.
C'est Peter Monk, le grand entrepreneur canadien qui a bâti Barrick Gold, qui a donné une bonne partie de sa fortune. Peter est décédé il y a 3 ou 4 ans. Bonne partie de sa fortune dans ça. Et Michael Sabia, il ne faut pas oublier aussi que c'est un digne membre de ce qu'on appellerait l'aristocratie canadienne-anglaise. Il est marié avec la petite fille de Lester B. Pearson, qui est elle-même la fille de Jeffrey Pearson, qui lui-même avait été qu'ambassadeur du Canada à Moscou et dans plusieurs grandes capitales.
Londres.
Alors, Mike, il vient de cet environnement-là.
Oui.
C'est un gars brillant, mais c'est un gars extrêmement brillant. Moi, j'avais pleinement confiance quand il a été nommé, parce que c'est un gars qui fonctionne par objectif. Mike, il faut mettre la GST TPS en place pour telle date.
Ouais.
Oui, monsieur!
Bon, alors, Moi, j'ai eu des très bonnes discussions aussi avec lui, puis je lui lève mon chapeau.
Garçon,
je lui lève mon chapeau et je
puis
vous remercie.
Il a bien joué la politique en s'en tenant loin.
Oui,
tu
oui,
comprends? Il avait sa porte ouverte à n'importe quel politicien qui voulait y parler, mais il s'engageait à rien politiquement, puis il jouait très, très bien ses cartes. Vraiment.
Alors, je vous lève mon chapeau, M. Sebia.
Bonne chance dans l'avenir. Hein?
Absolument. Et là, évidemment, on
puis en... merci pour ce que vous avez fait.
Oui, oui, parce que c'est notre argent, c'est l'argent de nos retraites. Évidemment, Luc, ça va poser la question du successeur ou de la successeur. Sais-tu quoi? On va s'en garder pour la prochaine fois. Il y a des noms qui circulent.
Parce que ça spécule, puis je pense pas qu'il est trop tôt. Moi.
Ouais, puis
sinon, on croit à l'histoire de Sophie Brochu qui aurait démissionné en se préparant pour ça, mais je sais pas si c'est vrai. Parce que Robert Tessier, le président du conseil de la Caisse, c'est l'ancien PDG de Gaz Métro. C'est de là que Sophie Brochu vient. Bon, il n'y a pas que je ne sais pas si c'est vrai.
Moi, je l'écarte
mais c'est une
pas.
Candidate.
Je l'écarte pas que ce soit elle.
Une femme
elle,
brillante. Une femme extrêmement brillante.
Une chose est sûre, le gouvernement va avoir un gros, gros mot à dire. Le premier ministre, en fait, va avoir un gros, gros mot à dire.
C'est clair. Mais hein? C'est lui qui dit
c'est
lui
normal.
Qui dit non.
C'est normal. Normal. C'est normal. Normal. C'est comme ça. On s'arrête, Luc, parce qu'au retour, j'ai parlé avec Diane Francœur, la présidente de la FMSQ, ce matin. Selon Sébastien.
C'est étonnant.
C'est intéressant sur les primes. Elle ne les a pas défendues, au contraire, elle les a condamnées. Mais c'est sur la négociation, là. Selon le gouvernement, ils ont jusqu'à vendredi, les médecins, pour signer un accord puis redonner une partie du magot qu'ils ont obtenu. Je veux t'entendre là-dessus parce que tu en as fait des négos après la pause.